Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Symboliquement, la montagne est l'espace de la frontière. Frontière visuelle dans le regard de l'observateur ou de l'alpiniste, entre terre et ciel. Mais l'espace montagnard représente aussi, dans nos imaginaires, une limite plus abstraite. Les cimes sont des lieux de passage entre le monde réel et le monde des esprits. C'est bien ainsi que l'entendaient les premiers montagnards qui voyaient dans les étendues glacées ou enneigées la présence du démon. Toutes ces anciennes superstitions sont quelque peu tombées en désuétude depuis les débuts de l'alpinisme moderne, mais par un étrange retournement, les sommets ont conservé une charge mystique ou spirituelle, à défaut d'un réel pouvoir magique. Car l'activité même de l'alpinisme permet toutes les introspections. En se dépassant par l'effort intense, qu'il soit individuel ou collectif, en recherchant un contact intime avec le risque, parfois en frôlant la mort, les grimpeurs explorent aussi une partie d'eux-mêmes. Et cela n'a rien d'une formule convenue, comme on peut s'en apercevoir en écoutant cette émission de décembre 1991. Un numéro de L'Échappée Belle par Marie-Hélène Fraissé sur le thème de la montagne mystique, avec un prêtre alpiniste, une grimpeuse philosophe, un guide de haute montagne, un éducateur aux méthodes originales et un anthropologue. Toutes et tous nous racontent leur montagne magique.
L'échappée belle.
So you better get ready. Ready to go.
Voyage.
You can come as you are.
Loisirs. Aventure. Cap vers le ciel, échelle vers l'outre-terre, les montagnes sont bien plus que des accidents du paysage et l'alpinisme bien plus qu'une activité sportive. Les états de conscience modifiés que décrivent beaucoup d'alpinistes ressemblent de manière troublante à la transe, au satori, au voyage chamanique. À la frontière de l'engagement physique extrême et de la spiritualité, du sport et de la quête, existe un territoire mal défini qui est celui de l'épreuve initiatique, hier vécu sous le contrôle de la société traditionnelle, aujourd'hui décidée individuellement. Ajoutez à cela la médiatisation des exploits, la valorisation du risque, contre-valeur nécessaire dans nos sociétés surprotégées, et vous comprendrez pourquoi l'altitude attire comme un aimant. La montagne mystique jusqu'à 17h avec notamment Catherine Destivel et Patrick Gabarou, en direct David Le Breton et Françoise Loux. Une échappée préparée par Marc Gius avec le concours de Myriam Collet, Roland Alagnès, Antoine Marguerie, réalisée par Janine Souchier. Un téléphone pour nous joindre jusqu'à 17h, le 42 30 19 19.
Commencer par le sommet le plus haut, donc le Mont Blanc, qui se trouve là, à gauche. La pointe, une grosse pointe blanche, là, c'est côté italien, ça. Donc on n'est pas très loin de la frontière italienne. Après, un peu sur la droite, le gros sommet, là, un peu rectangulaire, tu sais, qui est tout marron, là, c'est Grande Jorasse. Là, on a la face nord, là, on voit la face nord. Derrière, si tu regardes bien, tu vois le Mont Maudit et le Mont Blanc du Tacu, qui sont deux sommets proches du Mont Blanc. Tout au fond, une pointe blanche, là, et vue du midi, on la voit bien. La pointe Isabelle, là-bas, le gros sommet avec la face nord toute blanche, là, pointe Isabelle. Et puis un peu sur sa droite, sur sa gauche, c'est le col du Chardonnay qu'on a passé. Donc on a fait quand même une bonne trotte déjà.
C'est superbe hein, tout ça.
Là, ouais, c'est magnifique. Surtout l'hiver, c'est bien plus joli que l'été. Hein. Parce que l'été, si tu vois les glaciers, tout ça, même là où on est, c'est, la neige a tout fondu. Et si tu vois des cailloux, tu vois des moraines, c'est laid. Alors, tandis que là, c'est magnifique. Les sommets sont plâtrés, c'est tout blanc, ouais, c'est magnifique.
La montagne est plus qu'un lieu de promenade ou d'exercice, c'est un lieu où l'on devient autre. Nous allons tenter de comprendre comment, donc pendant toute cette heure et demie. Bonjour Marc Gioz, vous qui avez fait tous les reportages de cette émission. Et le personnage qu'on entendait, votre interlocuteur, vous étiez en montagne, avait une sorte de petit bip-bip qu'elle est avec sa voix. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un petit appareil qui permet de rechercher les montagnards éventuellement pris sous des avalanches. Voilà le petit bip-bip.
Avec nous en direct, David Le Breton, vous êtes anthropologue et vous avez cherché à comprendre pourquoi le goût du risque et le spectacle du risque, notamment en montagne, connaissaient une si grande faveur aujourd'hui. C'était intéressant parce que c'est la première étude véritablement sérieuse d'anthropologue, enfin avec une approche, je dirais, scientifique du phénomène. Passion du risque, publié chez Anne-Marie Métellier. Et vous allez avec nous donc suivre tous les témoignages de ces montagnards. Comment ce projet d'étudier sérieusement en tant qu'anthropologue, ce qu'on appelle le phénomène aventure, vous est venu ?
Il faut, je pense, remonter dans mon histoire dans les années 70, c'est-à-dire une époque où la jeunesse occidentale connaît une crise assez sérieuse. C'est le départ vers les chemins de Katmandou. C'est aussi pour la première fois des taux de suicide, le choix de la folie, une difficulté d'être qui prend une ampleur réellement importante. Je vois donc autour de moi disparaître quelques amis, d'autres faire le choix de la folie. Et moi-même, je fais le choix du Brésil. Je pars un jour en pensant que sans doute je ne reviendrai plus jamais en France. Et là, pendant plusieurs mois, je vais aller au bout de moi-même. Je vais faire cette traversée de la souffrance dont on parlera peut-être aussi aujourd'hui par rapport aux alpinistes. Et puis au terme de plusieurs mois d'une grande douleur, donc finalement j'accède aussi à une renaissance de moi-même et je décide de rentrer en France et puis d'achever mes études de sociologie. Et puis il m'a paru que la crise que traversait la jeunesse déjà dans les années 70 ne cessait de s'approfondir. Ma voie d'entrée donc dans les prises de risque, c'est d'abord une réflexion sur la jeunesse et sur les innombrables épreuves que s'infligent les jeunes. Donc par exemple les tentatives de suicide, les suicides, les fugues, les nouvelles formes de délinquance, la vitesse, etc. Et ce qu'on appelle l'extrême. Et parallèlement à cela, vers la fin des années 70, c'est le début du Paris-Dakar, c'est le début du Camel Trophy, c'est l'émergence d'un nouveau phénomène sociologique, la nouvelle aventure.
On va avoir le temps d'en parler. En face de vous, Françoise Loux, vous êtes vous aussi anthropologue, vous êtes chercheur au Centre d'ethnologie française au CNRS, mais vous êtes également une praticienne, vous, de la montagne, puisqu'on vous doit un guide de montagne, guide, il s'agit des hommes qui nous guident en montagne, guide au pluriel de montagne, mémoire et passion aux éditions Didier Richard. Et ce travail s'inscrit dans une longue recherche que vous faites sur l'anthropologie du corps.
Oui, je suis anthropologue, je travaille sur le corps et je travaille aussi sur les cultures populaires. Et en fait, cette idée de faire une recherche sur les guides de montagne m'est venue alors que je pratiquais la montagne, bon, à un tout petit niveau, mais enfin, je la pratiquais quand même. Et je partais faire de la montagne avec un ami guide. Et puis, j'emportais toujours dans mon sac à dos un livre que j'étais en train d'écrire sur les proverbes. Et puis, quand j'étais en feu, je travaillais un peu. Et puis, je me suis dit tout d'un coup, mais en fait, bon, je travaille sur le corps. Et il y a des choses extraordinaires à faire à propos des guides de montagne. Donc, j'ai commencé à parler avec un ami guide, avec plusieurs amis guides. Et puis, comme ça, peu à peu, l'idée m'est venue de faire ce livre sur la montagne.
Vers quel sommet intérieur la pratique de l'alpinisme vous entraîne-t-elle ? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à trois alpinistes très différents par leur personnalité, leur âge, leur sensibilité de montagnard. Première réponse, premier témoignage, celui du père Jean Denis, grand alpiniste devant l'éternel. Il prépare pour l'hiver prochain sa 18e expédition en Himalaya. Le père Denis a 70 ans, il en paraît 50. À mon âge, dit-il malicieusement, je ne monte plus guère au-dessus de 6000 mètres d'altitude. Alors à la fin des années 40, Jean Denis, alors qu'il était déjà prêtre, avait suivi la formation de guide à Chamonix avec des maîtres prestigieux comme Lionel Terray et Claude Lachenal. Ensuite, il a réalisé plusieurs premières dans le massif du Mont Blanc et dans les Dolomites. Et à partir des années 70, il s'est passionné pour les montagnes et les hommes de l'Himalaya. Je vous propose de faire un petit bout de chemin avec le père Denis, au fond de la vallée des Contamines, sur un sentier de pèlerins. Quand il évoque ses courses en montagne, ce prêtre alpiniste se considère d'abord comme un spectateur privilégié de la beauté de la création.
Les souvenirs d'un certain réveil, pas un certain bivouac. J'ai poussé des cris, je me suis réveillé en pleine nuit, je ne sais plus pourquoi. Et au-dessus, tu dis, sapresti, le mauvais temps, il va pleuvoir. Non, c'était pas ça, c'était la Voie lactée, qui était énorme, remarquable, et qui nous a permis une course remarquable également le lendemain matin. Oui, donc une proximité de la création. Alors, on ne rejette pas, parce que moi je suis scientifique et j'aurais dû être ingénieur normalement. Je ne rejette absolument pas tout ce que fabrique l'homme, mais dans la mesure où ce qui est fabriqué ainsi, artificiel par conséquent, ne nous sépare pas de l'éternel. C'est ça le problème. Alors qu'en pleine montagne, on est directement en contact avec une nature qui, normalement, souvent, nous parle, sinon d'éternité, du moins de création, en termes orientaux de manifestation, et en termes généraux d'absolu divin. Alors, j'étais bâti comme cela. Donc un certain besoin de contemplation, un certain besoin mystique. Et la montagne m'a appelé, m'a apporté des tas de choses à tous les niveaux.
Vous avez dit « m'a appelé », là, c'est un lapsus peut-être un peu révélateur. Quand, oui. Quand vous êtes... Bon, il y a cette envie que vous venez d'exprimer de faire tomber les barrières qui nous séparent du monde, de la beauté de la création. Oui. Est-ce que vous avez en montagne, vous personnellement, un contact direct avec Dieu? Au cours d'une course, est-ce que ça vous arrive?
Bon, il est normal que vous posiez la question. Alors, au lieu de répondre d'une façon abstraite et très générale, je vous dirai quelques souvenirs rapides. Tout à l'heure, on parlait d'Himalaya, mais ça aurait été la même chose ici. Dans cette arête nord, la Madablan, nos postes de radio étaient mal fichus et tombés en panne. Et pendant 2 jours et 3 nuits, j'ai été de service au camp 2. Au camp 2, qui était à peu près à 6100 d'altitude, sur une arête épouvantable. Et j'étais tout seul, avec un poste de radio, pour faire liaison avec la base et l'équipe de pointe du moment. Eh bien, pendant les 2 jours et 3 nuits, dans le silence, la solitude, le silence, le spectacle. On voyait le Makalu à 20 km vers l'est, depuis le lever du soleil avec les doigts, comme les doigts de Dieu derrière, et bien jusqu'au dernier rayon rouge de l'Occident, sur la cime de 8004, et bien pendant ces 3 nuits et 2 jours, je ne me suis ennuyé à aucun instant, parce que il y avait pour moi, davantage que la montre matérielle, il y avait bien sûr une présence. Hein, le sens de Dieu à ce moment-là. Sans aucun doute, si vous voulez faire une retraite au sens général d'humanité ou au sens plus particulier de spiritualité, surtout retraite religieuse, eh bien je vous conseille d'aller passer quelques jours, si possible assez longtemps, en Himalaya, il n'y a rien de tel. Ou, alors à défaut, dans de hautes montagnes chez nous. Le malheur, simplement, c'est que nos montagnes chez nous sont souvent trop fréquentées ou mal fréquentées. Mais cependant, vous savez, il y a des camps, des endroits, dans le silence ou simplement dans le bruit des eaux.
On est justement au-dessus d'un torrent, il s'appelle comment ce torrent?
Le Bon Nant, c'est-à-dire le Bon Torrent, il est excellent. À tout point de vue, il nous fait beaucoup de bien.
Et puis on est à quelques mètres là de Notre-Dame de la Gorge.
Voilà, Notre-Dame de la Gorge que nous voyons là-bas, en face de nous, à 100 mètres. Et on comprend très bien que, même dans le temps, actuellement bien sûr, pour quitter la civilisation trop bruyante, mais même dans le temps, des ermites soient venus, je dirais, se réfugier, non pas pour quitter le monde, mais pour des besoins de contemplation, dans le silence de Dieu, soient venus se réfugier dans des fonds de vallée comme ici, à la sortie des gorges romaines. C'est parfaitement normal, et c'est à la suite de cet ermite, ou de ces ermites, nous ne savons pas très bien, que l'église a été construite et est devenue maintenant un lieu de pèlerinage.
On quitte momentanément le Père Denis où contamine, on redescend dans la vallée de Chamonix et 20 km plus à l'ouest, on grimpe jusqu'au village des Carreaux. Le dernier chalet du hameau, juste à la lisière de la forêt, c'est celui de Patrick Gabarou. Patrick Gabarou, c'est l'un des plus grands alpinistes français de ces 20 dernières années. Admiré, respecté dans le milieu de la montagne pour toutes les grandes voies qu'il a ouvertes dans les Alpes, Patrick n'est jamais devenu une star de l'alpinisme, comme Christophe Profit ou Jean-Marc Boivin. Jean-Marc Boivin, avec lequel il avait pourtant ouvert en 1975 le super couloir sur le Mont Blanc. Ah, le Mont Blanc, c'est la montagne de Gabarou. Il a réalisé sur ses pentes 15 premières, dont les plus connues sont la Directissime du Pilier d'Angle et Divine Providence. Des voies nouvelles, Patrick en a signé bien d'autres dans les Grandes Jorasses, sur les Drues. Il a goûté aussi à l'Himalaya. Il va d'ailleurs faire référence à l'Himalaya dans la séquence que je vous propose d'écouter. Mais d'abord, il évoque les Alpes.
Il y a haute montagne et montagne aussi. Disons, je dirais la montagne de la neige. Je pense que c'est celle-là peut-être qui me parle le plus. Ça, ce sont des expériences que je vis non pas tous les jours, mais tout au fil de ma vie. Cette expérience-là, je l'ai vécue simplement il y a 2 jours, 3 jours, puisque comme vous savez, il était tombé de la neige fraîche sur la moyenne montagne qui est la mienne, puisque je n'habite pas à Chamonix, mais bien loin. Et là, vraiment, j'y pensais. J'étais sur un plateau à 1500 mètres d'altitude et... Comment dire, j'étais perdu dans la beauté du monde. Hein, c'était un simple plateau de 1500 mètres où se trouvent les vaches l'été. Et là, il y avait 15 cm de neige qui, tout d'un coup, avait même pas habillé, mais transfiguré le paysage. Et là, je me disais, j'ai pas 40 ans, j'en ai pas 80, j'en ai pas 15. Je suis simplement un enfant au cœur de la montagne. Voilà, je suis dans la beauté. Et je peux pas dire beaucoup plus. C'est-à-dire, j'avais l'impression que ça m'illuminait et puis que ça me lavait l'âme. Je ne pourrais pas dire bien autre chose parce qu'après c'est ce qu'on vit, simplement le pas dans la neige, les quelques touffes d'herbe de l'été, les grandes graminées qui sortent là, toutes noires, qui se projettent en ombre chinoise sur la neige, et puis la lumière, toutes les myriades de cristaux qui brillent au soleil, on regarde des montagnes qui semblent un peu presque imaginaires autour et on se dit... Ça, c'est mon monde. C'est le monde qui m'est donné, exactement. Et de manière intemporelle, je suis un voyageur à travers cette beauté du monde.
Est-ce qu'il se passe quelque chose de puissant qui ne se passe que là-haut ?
Je pense qu'il y a déjà une expérience de solitude très forte qu'on vit en haute montagne, mais qu'on peut vivre aussi dans le désert. Et que, après, tout dépend de la puissance de perception de chacun, mais qu'il y a un domaine qui est certainement particulier, c'est celui de la haute montagne, en tout cas actuellement, de la très haute montagne, hein, himalayenne, parce qu'on sait qu'au-delà de 6500 mètres, il n'y a plus de possibilité de secours. Ben, nous, par exemple, on était une équipe, on était 2, point final, il y avait un Sherpa au camp de base, c'est tout. Donc, en quelque sorte, à partir du moment où on dépasse l'altitude 6000-6500, on n'a même pas de radio, rien d'ailleurs, hein, bon, donc on ne peut même pas appeler un hélico, mais il faut savoir qu'actuellement, un hélico ne peut pas intervenir au-dessus de 6000-6500. Donc, j'avais très très fortement l'impression intime, en quelque sorte, de pénétrer sur la Lune, sur une Lune terrestre. J'étais dans des espaces extraterrestres, 7000-7500, et on monte et on dit maintenant, je ne redescendrai, si cela m'est donné, que par moi-même. Et ça, c'est très, très fort, parce que je me souviens, on redescendait, donc c'était la, je ne sais plus quelle nuit, à la petite tente qui était à 7500. Je voyais Pemba qui était déjà à la tente. Le ciel, parce qu'il faisait plus ou moins mauvais tous les jours, donc le ciel chargé et tout, mais mauvais, mais du mauvais temps de la demi-journée seulement. Hein. Et je me disais, si cette nuit, d'un coup, c'est le vrai mauvais temps qui s'abat là, pendant 7 jours, ben dans 7 jours, c'est fini. Cette tente, ce n'est pas notre abri de la nuit, c'est notre caveau, simplement. Et je le voyais avec comment lucidité et presque sérénité en disant « Maintenant, je suis là, sur la Lune, et c'est ma place d'être sur la Lune. Je n'ai pas envie d'y rester une éternité. » Et ça, je pense que ça, c'est totalement... Le reste du monde est absolument relié, puisqu'on va le rejoindre par nos... On n'en est pas coupé, hein, mais on sait aussi qu'on est quelque part dans des hautes sphères, simplement pour notre petit être humain. Et ça, c'est vraiment très, très fort. C'est-à-dire que en même temps, on a la conscience totale de tout ce monde chaleureux qu'on veut vivre et que, bon, hein, parce qu'on est complètement charnel, et puis que là, pendant un temps qui est quand même long, on est vraiment pas au-dessus, géographiquement, quoi, en quelque sorte, au-delà, en dehors un peu de ce monde.
Au-dessus, est-ce que c'est aussi plus proche du divin ?
Il faut toujours être très prudent au niveau de ce genre de rapprochement. Souvent, ça, c'est un rapprochement un petit peu imaginatif, que l'on invente dans la vallée. Ce que je veux dire par là, c'est que Souvent, en haute montagne, on va être dans l'action. Et l'action, elle oblitère tout. On apporte en montagne, très souvent, ce qu'on y apporte. C'est-à-dire, ou plus exactement, on y voit, tout étant relatif, ce qui est en nous-mêmes. C'est-à-dire que si on y vient avec une certaine notion du divin, ou quelque chose de plus précis que ça, effectivement, de par le fait que c'est un monde qui, à la fois, va nous pousser dans certains paroxysmes au niveau de la vie et de la mort, et du risque, et de la mort dont on va sentir physiquement qu'elle nous frôle, des fois, les chutes de pierres, je l'ai encore vécu cet été, des blocs de pierres qui tombent à quelques mètres seulement. Bon, là, effectivement, on peut avoir un rapport au divin aussi au niveau de, on peut dire, de son karma ou de la providence et tout. On s'est dit, je suis dans le chemin de ma vie, est-ce que je suis protégé ou pas? Est-ce que cette pierre tombe simplement par le fruit du hasard? Ou est-ce que aussi, on dit dans l'évangile, Dieu dit, chacun de vos cheveux, donc des milliards d'êtres humains, je le connais. Bon, mais là, on est dans une autre perspective. Moi, dans la montagne, ce que je vois, dans ce que je vis au niveau de la beauté de la montagne, parce qu'on vit quand même beaucoup de moments très beaux, Ça me rappelle une phrase que j'adore, c'est Max Aldebert, c'est un Suisse, je pense, bon, qui a écrit déjà un livre qui doit s'appeler, je crois, Le Royaume des Hautes Terres. Ah, ça, c'est déjà tout un programme. Je ne le connais pas, ce livre. Hein. Mais j'avais vu cette phrase, et la phrase, elle disait simplement « La splendeur du monde et mon camarade sont mes seules pensées comme un chant profond. » Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, voilà, ça dit beaucoup, très souvent, ce qu'on vit. Et ça, c'est le côté extraordinaire d'un alpinisme, quand on a la chance de le vivre dans une amitié très profonde, comme je le vis avec Alexis, mais avec d'autres, où on ne parle pas, mais on sent cette symbiose entre nous. Et c'est ça, hein, la splendeur du monde. On dit, mais très souvent, on dit bêtement. Mais on le répète à l'envi, parce que pourquoi, comme on peut répéter à l'envi, je t'aime, on dit que c'est beau, t'as vu comme c'est beau. Simplement parce qu'on a besoin de ce support pour... C'est presque un chant, hein, que c'est beau. On chante justement la beauté du monde en le disant, puisqu'on est fait pour le dire. Donc, la splendeur du monde est mon compagnon.
Troisième témoignage que nous allons entendre est celui de Catherine d'Estivel, beaucoup plus connue pour ses performances de grimpeuse en falaise et sur murs artificiels que pour ses ascensions en haute montagne. Et pourtant, Catherine d'Estivel a commencé à grimper très jeune en haute montagne, dans le massif du Mont Blanc. Après avoir été, avec Patrick Edlinger, l'une des stars françaises de l'escalade libre, elle a renoué, il y a 2 ans, avec sa première passion, la haute montagne.
Qu'est-ce qui me fait grimper là-haut? C'est essayer de se surpasser, essayer de s'adapter à la nature, essayer de... C'est un tout. Et expliquer exactement, il y a le paysage, les ambiances, les dangers, il y a l'effort, c'est assez vaste. Moi, ce que j'aime, c'est un peu c'est l'aventure. Se dire, je pars, je ne sais pas où je vais vraiment. Je connais les risques de la montagne, je la connais. Donc, je vais pouvoir appréhender ces dangers et puis les éviter. Et donc, je suis à l'aise parce que je connais un peu ce qui peut m'arriver. Donc, j'essaie d'éviter ce qui pourrait m'arriver au pire. Et voilà, donc c'est essayer d'un peu une sorte de survie dans un milieu qu'est la nature, qui n'est pas toujours gentille. Il faut que la montagne ait une certaine forme, que je commence à la connaître aussi, il faut que je l'observe, donc que je m'acclimate, donc je la regarde. Ça peut durer 1 an, 2 ans ou 2 semaines. Enfin, c'est... Bon, elle m'attire ou elle ne m'attire pas. Si je vois qu'il y a des couleurs qui ne me plaisent pas trop ou des formes qui ne me plaisent pas, qui me font un peu peur, j'y vais pas. Mais c'est très instinctif. Hein. Par exemple, les drues, c'était un peu la montagne de mon enfance. C'est-à-dire, quand j'ai grimpé une montagne qui s'appelle l'Index. C'est une petite montagne qui fait 100 mètres à peu près. Et j'avais 8 ans, 9 ans. J'avais fait ça avec mon père et un ami de mon père. Et partout, après, je voyais l'Index sur les cartes postales. En fait, c'était les drues. Donc, j'ai eu envie de grimper sur les drues. Et puis bon, ça remonte à loin. Donc, pourquoi j'ai ouvert ma voie? Parce que je l'avais grimpé une première fois, d'abord à 17 ans. 17 ans, j'étais complètement fascinée par cette phase, donc je l'ai faite. J'étais déçue par rapport au niveau que ça demandait. Je m'étais entraînée comme une bête pendant 2 mois. Elle m'a pas beaucoup résisté, donc j'étais déçue parce que c'était trop facile. Après, je me suis dit, je vais me venger, je vais la faire en solo. J'ai fait le Piye Bonatti en solo parce que bah, justement, j'avais besoin de dire ce que je pensais de lui, ce que je pensais d'elle, en fait. Bon, et c'était fantastique, un beau pilier. Je me suis vraiment sentie bien. Puis là, il y a eu cette un peu cette les médias qui sont intervenus réellement en disant, bah oui, d'Estivelle, elle a grimpé en 4 heures et Walter Bonatti, donc ce pilier Bonatti, il a été ouvert en 6 jours. Je dis mais ils comprennent rien. C'est pas du tout la même chose. Et puis, j'ai cogité un petit peu, je me suis dit, au fond, moi, j'aimerais bien aussi ouvrir ma voie, puis voir un peu ce que c'est que de rester autant de jours dans une paroi. Je sais que c'est pas la même chose, mais j'ai envie de voir. Et donc, j'ai ouvert ma voie.
On a l'impression que, d'une certaine manière, vous tutoyez ce rocher, enfin, qu'il y a une relation très personnelle.
Oui, c'est personnel. C'est pour moi, la montagne, c'est un être vivant, un être qui a ses rues, ses petits problèmes et moi je dois essayer, c'est quelqu'un de fort aussi, moi je dois essayer de m'adapter à cette force.
C'est quelqu'un, la montagne vous répond, la montagne lutte avec vous?
Elle lutte pas, non, elle est forte, elle est là, elle présente, elle bouge pas, et c'est moi qui dois m'adapter. J'aime bien les gens forts, j'aime bien les éléments forts, donc c'est moi qui dois m'adapter et essayer de la gravir en détournant ses difficultés.
Est-ce que vous aimez ce verbe qu'on utilise souvent, vaincre la montagne? Ça me semble
ben
pas
moi,
du tout
non.
correspondre à votre
moi,
approche.
Moi, ça me correspond pas tellement. Non, j'aime bien arriver au sommet, mais je dis pas je l'ai vaincu. Je suis arrivée au sommet, c'est super, quoi. Mais je me suis un peu battue, mais je l'ai pas vaincu. De toute façon, la montagne est toujours plus forte que moi. Sinon, j'irais pas. Si c'est trop facile, je serais pas attirée.
Est-ce qu'à cet égard, vous pensez qu'une femme a une relation différente, justement, avec la montagne, la paroi, le rocher?
À mon avis, on n'a pas une position différente, mais peut-être qu'on a une... Est-ce qu'un garçon va accepter de dire que... ce que je dis, par exemple, que j'aime les gens forts, que j'aime les éléments forts, est-ce qu'un garçon le dira? Ça, je ne sais pas.
Vous pensez que pour un garçon, quoi, ça aurait quelque chose d'un peu ambigu?
Oui. Oui, pour le moment, ce que j'ai vu dans les livres, c'est que la montagne, pour eux, représente une femme, une très belle femme. Donc, il faut la vaincre.
Il faut la posséder.
La posséder.
Ouais.
C'est vrai qu'on vit presque en osmose avec la montagne et que c'est un sentiment que j'éprouve pas ailleurs. C'est un sentiment de bien-être et de mystique, je sais pas, mais bon, on est là, on est associé à la montagne, on fait partie de la montagne à ce moment-là. Mais la montagne ne vit pas et nous, on doit rester en vie. Donc c'est un peu la survie, mais mystique, non. Enfin, non.
Une sorte de dimension, si vous voulez, qui se trouve à l'intérieur de vous et à laquelle vous accédez par l'effort.
Possible, oui, c'est vrai. Mais je crois que je suis assez terre à terre. Que, ouais, on se transforme en animal, voilà. Un peu un animal, un peu lié à cette montagne. Et on ne pense plus beaucoup. C'est vrai qu'on est complètement la tête dans les étoiles. On pense très matériel, on pense aux crampons, aux piolets, aux pitons, à la condition de la neige, de la glace, du rocher. Bon, c'est peut-être ça qui me plaît, parce que bah, tout d'un coup, on a la tête vide, on n'en pense plus. D'ailleurs, je pense que si on a des problèmes, on n'arrive plus à grimper. On est complètement dedans, et puis c'est le vide. Et quand on revient dans la vallée, bah, c'est super. On a fait peau neuve, presque. Et on rattaque la vie de tous les jours, d'une autre façon, mais assez vaillant. Je crois qu'après une ascension, ce qui est bien, c'est de pouvoir le digérer. Tout d'un coup, être plongé dans la vie active, c'est brutal, quoi. C'est brutal et le réveil est un peu difficile. On n'a pas envie de les vivre tout de suite. On a envie encore d'être là-haut.
De laisser les choses résonner
voilà,
en vous.
Voilà, doucement.
Osmose profonde avec la montagne et le rocher pour Catherine Destivelle. Perception aiguë d'une beauté cosmique pour Patrick Gabarou. Ou témoignage de la puissance de Dieu pour le père Denis. Françoise Loup, de laquelle de ces trois sensibilités vous vous sentez la plus proche?
Je crois que ces trois sensibilités sont très liées les unes aux autres. Moi, je pensais, en écoutant ces témoignages, à ce qu'on disait dans la culture paysanne, que je connais un peu, et on disait que l'homme faisait partie de la nature entière et du cosmos. Et qu'en fait, l'homme était en bonne santé, mais dans son corps et dans sa tête, quand il était en unisson avec le cosmos. Et c'est ce qu'ils ont dit, au fond, tous les trois. Catherine Décivelle dit qu'elle fait peau neuve. Gabarou dit qu'il est en symbiose, qu'il est en osmose. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que dit Gabarou, c'est qu'il est en symbiose aussi avec l'autre. Il est seul, mais pas vraiment seul, parce qu'il est dans la nature, mais avec l'autre. Donc il est vraiment homme et homme dans la nature. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, ce sentiment qu'on a parfois. C'est parfois très fugitif, parfois très fort. Par exemple, le matin ou la nuit, quand on sort du refuge et qu'on se sent seul, mais pas seul, parce qu'au loin, on voit les petites lumières, et puis on se sent complètement en unisson avec la nature, avec les hommes, et on a l'impression que tout est possible.
Alors, depuis la naissance de l'alpinisme, tous les grands sommets de la planète ont vu mourir sur leurs pentes des dizaines d'alpinistes. Mort spectaculaire lorsque de grands grimpeurs périssent dans les faces inviolées de Georges Mallory sur l'Everest en 1924, au Polonais Kukushka dans la face sud du Lhotse en 1989. Mort plus anonyme de dizaines d'alpinistes amateurs chaque été dans les Alpes, la haute montagne tue. Ceux qui la fréquentent sont-ils pour autant des risque-tout, des trompe-la-mort? Pourquoi se confrontent-ils au vide et aux dangers objectifs de la montagne? Qu'est-ce qu'ils recherchent en s'exposant aux avalanches, aux tempêtes, à la verticalité d'une paroi? Montagne et spiritualité, oui, spiritualité et danger, les réflexions de Patrick Gabarou, guide et alpiniste de haut niveau.
Il y a quelques situations, il y en a d'abord une invraisemblable multitude. C'est le côté un petit peu extraordinaire, c'est qu'en simplement quelques années, qui sont courtes comme celles de toute vie humaine et qui en même temps sont un peu immensément longues, au niveau de l'ensemble des situations relativement extrêmes de la vie par rapport au risque de mort qu'on a vécu. C'est un petit peu comme si on disait, chaque fois qu'on croise une voiture, elle peut nous tuer, ou on peut, enfin bon, on peut avoir l'accident. Et là, en montagne, bon, très souvent, on est dans des situations qui sont limites quand même, simplement parce que peut-être on en a conscience aussi. Hein, on sait que les séracs sont suspendus au-dessus de la tête et que pendant 10 minutes, on traverse sous des barrières de glace suspendues. Si elles tombent, on est mort. À la limite, si on n'en a pas conscience, on passe et on ne vit pas sa vie intensément. Hein,
on passe comme on conduit sur la route.
Et comme on conduit sur la route, exactement. Mais effectivement, il y a parfois des situations un peu exceptionnelles. Il m'est arrivé de gravir des faces où se trouvaient des séracs. Les séracs, ce sont des barrières de glace qui sont suspendues, qui sont donc en équilibre plus ou moins instable. Je me suis retrouvé une fois sous une barre de séracs dans la face ouest du Mont Blanc. On ouvrait une voie directe, en fait, qui passait par cette barre. Donc moi, j'ai rarement affronté des faces de montagne, quel que soit le terrain, pour leurs difficultés techniques intrinsèques. Mais d'abord pour la ligne que je voyais de loin, et qui était plus ou moins une ligne parfaite, ou une ligne neuve. Hein. Et en fait, après, effectivement, il est assez curieux que parfois, dans des circonstances privilégiées, il y a une adéquation entre ce terrain sur lequel on grimpe comme une petite fourmi après le tronc du séquoia, et en même temps, cette vision du séquoia qu'on a depuis 100 mètres avec la voie que l'on va, le pointillé qu'on va tracer. Et des fois, on peut arriver à se dire, je suis en train, dans mon pointillé, et je le vois cette face. Alors ça, c'est des instants un peu uniques qu'on n'a pas si souvent que ça. Là, j'étais sous un sérac, et puis c'était un couloir qui était très exposé. Bon, on le remonte, et ensuite, je cours pour me mettre sous l'abri de l'immense étrave surplombante de ce sérac, donc vraiment, globalement, à l'abri. À moins que tout s'effondre, mais mon Dieu, ça, c'est le tremblement de terre, à la limite. Et je vois mon ami, donc c'est un Italien qui part, il était protégé par un petit banc rocheux. Au moment où il part, une déflagration fantastique, une énorme partie gauche du sérac, mais je ne vais pas me dire ce que ça peut représenter en mètres cubes, bref, qui dévale, voilà, des tonnes de glace qui dévalent comme une sorte de formidable Niagara. Et ce qui m'a frappé après le plus, sans me culpabiliser, mais je me suis dit, tiens, c'est quand même vraiment curieux. J'étais là, c'était parce que j'ai eu, bon, bien sûr, le saisissement terrible quand j'ai entendu ça, hein, comme si bon. Et j'ai dit, Carlo va mourir. Et en même temps, ça a duré peut-être au moins 10 à 15 secondes, ce qui est vraiment une éternité, le temps que la masse de glace tombe et tout. Et en même temps que je me disais, peut-être qu'il est écrasé sur les blocs et tout, et j'étais là et je sentais la corde et tout, j'étais totalement subjugué par la beauté fabuleuse du spectacle, comme si j'étais perdu dans la chute du Niagara. Et ça m'a frappé après de me dire, alors que tu savais qu'il était peut-être en train de mourir, tu n'arrivais pas à t'empêcher de voir la beauté.
ressentez-vous le vide ?
Ça fait partie de l'escalade. S'il n'y a pas beaucoup de vide, je suis moyennement enthousiasmée.
Catherine Destivelle.
Parce que le vide, ça fait partie d'une grande escalade. C'est assez grisant. Il faut faire attention, mais c'est beau. C'est pas le danger, parce que c'est pas plus dangereux qu'une... À la limite, c'est moins dangereux, parce qu'on fait beaucoup plus attention. Mais on est là, perché, on se dit, c'est super. Et puis comme c'est très, très vertigineux, on peut voir la vallée, c'est fantastique. Mais bon, il faut le vivre. Moi, dans mes drues, j'étais bien. Enfin, dans les drues. À un moment donné, je me souviens, j'ai un soir, au bout du cinquième jour, au sixième jour, j'ai rencontré un oiseau. C'était ma première présence vivante qui arrivait. C'était génial. J'avais cet oiseau à côté de moi. On était tous les deux presque complices. Regardez la vallée qui était déjà dans le noir. Moi, j'étais encore au soleil. C'était superbe.
Père Denis, l'alpinisme, c'est une activité à risque. Il y a les risques objectifs que vous rencontrez en montagne, les risques de chute de pierre, de chute de sérin, etc. Et puis, on peut dire que, trivialement, vous taquinez la mort, finalement. Il y a une tentative d'aller un peu à la frontière de la vie et de la mort et de prendre le risque de risquer sa vie. Qu'est-ce que ça a comme importance dans les recherches spirituelles qui peuvent être les vôtres en montagne ?
Personnellement, la montagne de ce côté-là ne m'a rien apporté. C'est-à-dire que pour moi, il y a continuité totale entre cette vie temporelle, la vie éternelle déjà commencée, ça pose aucun problème. Sinon, un problème de prudence dans la vie pratique, c'est tout. Donc la montagne ne m'a absolument rien apporté, n'a pas déclenché chez moi un processus, disons, de réflexion ou d'intériorité de ce côté-là. Absolument pas, absolument pas. Mais au contraire, je veux dire, j'ai fréquenté pas mal de monde dans le domaine de la montagne, l'Himalaya, mais surtout ici dans les Alpes, et certains qui sont passés à deux doigts de la mort, des blessés graves, ou d'autres qui sont morts et dont les proches, les familles et autres se posent bien des questions. Il est certain que dans ma position, puisque je suis tout de même prêtre, j'ai été amené donc à participer déjà à ce qu'on appelle des essais au moins de sauvetage. Et c'est surtout dans ce domaine-là que nous intervenons. C'est-à-dire, au point de vue spiritualité, par rapport aux parents, par rapport à la fiancée, par rapport à tous ces gens qui se posent des questions. Indépendamment de savoir s'il y a eu un risque pris de travers, s'il y a eu une exagération, si, etc. Mais à quoi ça sert ? Pourquoi ça s'est passé ainsi ? Et pourquoi finalement, quel est le sens ou le but de la vie ? À partir de cet incident ou cet accident grave en montagne. Ça pose des questions assez fondamentales, tout simplement, pour la plupart des gens. Mais quand je dis cela, ce n'est pas pour ceux qui se sont tués, les pauvres, ils sont chez le Seigneur, j'espère, mais c'est pour tous les autres qui restent. Et là, on a absolument là, non pas des discussions, mais des essais de partage dans ce domaine-là.
Tout à l'heure, vous me parliez d'un itinéraire pour monter au Mont Blanc. Vous m'avez dit que cet itinéraire est vraiment remarquable parce qu'il est long, parce qu'il est beau et parce qu'il est dangereux.
Oui.
Quel est l'intérêt pour vous d'emprunter ce genre d'itinéraire ? Le danger, vous m'en avez parlé avec une petite lueur dans l'œil, quoi. Bon, ça fait partie de votre plaisir, finalement, en montagne.
Oui, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce danger, pour moi, n'a jamais été un excitant ni une drogue. Contrairement à certains jeunes qui... très vite, font des choses difficiles ou risquées. Je pense que ce n'est pas totalement normal, totalement raisonnable. C'est un peu une drogue. Au contraire, ce danger pour moi, que j'ai affronté d'une façon extrêmement progressive, très très prudente, très longue, très lente, arrivant à des choses difficiles, bien sûr, mais ce n'est jamais le danger qui m'a spécialement intéressé. C'est peut-être à ce sujet-là, à ce point de vue-là, que je suis encore là. Pour avoir fait beaucoup de montagnes ici dans les Alpes et en Himalaya, je ne suis pas encore mort, ni blessé, ni le moindre accident.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche un petit peu, j'allais dire, blasphématoire ? C'est-à-dire qu'aller chercher ce contact avec le monde qu'on ne peut trouver que là-haut, et finalement être un peu quelque part maître et dominateur de cette nature ?
Non, je ne pense pas. Parce que je pense que dans l'ordre providentiel de la création, je suis à ma place. Le Seigneur nous a... Dieu chez nous, Brahma chez les hindous, je ne parlerai pas des bouddhistes, c'est plus complexe. nous ont donné cette matière et cette nature absolument énorme, et pour qu'on s'en serve. Mais pas seulement pour qu'on s'en serve d'une façon prudente et matérielle, mais qu'on s'en serve aussi d'un point de vue spirituel, elle vient d'en parler. Et si un agrandissement de l'âme peut se faire, quitte à côtoyer quelques dangers, à condition qu'ils restent raisonnables, eh bien, je parie pour l'âme à ce moment-là.
David Le Breton, que pensez-vous de ces témoignages sur le risque en haute montagne? Bon, le père Denis le relativise à l'extrême, Patrick Gabarou n'en retient que la beauté, Catherine Destivelle le côté jouissif. Pourquoi au fond est-ce qu'ils vont risquer leur vie sur les sommets?
Jouer métaphoriquement son existence, c'est une manière de fabriquer du sens, de fabriquer de la valeur, et c'est une manière de solliciter la mort et de lui demander en quelque sorte d'authentifier le poids de son existence propre. Et évidemment, la montagne, c'est un terrain de jeu, d'une certaine manière, à cet égard privilégié, dans la mesure où ces témoignages nous disent en permanence le précaire, l'aisance avec laquelle on se sent à la fois fragile et en même temps infiniment puissant de surmonter les épreuves les unes après les autres. Donc on fabrique d'une manière efficace, élémentaire aussi, du sacré, mais à un usage strictement personnel. On intensifie sa vie.
On a vu se développer toutes ces expériences, vous en parlez dans votre livre, c'est l'extrême rubrique médiatique, notamment très importante aujourd'hui. D'après vous, cette démarche vers l'extrême procède tout de même d'une carence de notre société. Alors on va peut-être reprendre les choses par le début, parce que au fond, autrefois, la société nous offrait des rites de passage. Aujourd'hui, elle n'en offre que très très peu. Donc nous les fabriquons individuellement. Mais pourquoi la société, d'abord, n'offre-t-elle plus ces rites de passage?
Là, la question des rites de passage au regard du monde occidental est quand même très très compliquée, parce que des rites de passage, il n'en existe plus depuis bien 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 longtemps dans nos sociétés. Ça s'applique davantage à des sociétés traditionnelles. Pour un rite de passage, c'est un rite de transmission du savoir des anciennes générations, générations les plus jeunes. Ça implique la nécessité d'un partage unanime dans une communauté humaine. Or, nos sociétés occidentales sont beaucoup trop clivées en termes de classe sociale, en termes même de classe d'âge. Donc je pense que l'usage de la notion de rite de passage a plutôt une valeur de métaphore plutôt qu'une valeur d'analyse.
Aujourd'hui, c'est le règne de l'individu, donc le règne de la liberté. Mais cette liberté est lourde à porter.
Oui, et alors c'est là, en revanche, où on peut réintroduire la notion de rite de passage. Si on définit d'une manière très précise ce qu'on entend par là, c'est vrai que nous sommes une société d'individus. Cette manière de jouer métaphoriquement ou réellement avec sa vie est une manière de fabriquer du sens, à valeur strictement intime. C'est-à-dire que chacun dans son coin, des milliers de jeunes qui s'infligent des épreuves redoutables, telles que la toxicomanie ou la tentative de suicide, ou bien d'une manière médiatique, ces néo-aventuriers, ils sont dans un rapport direct de débat avec la mort, et ils sont donc dans un rite de passage. Mais la renaissance qu'ils inventent n'a de valeur que pour eux. Elle est strictement individuelle. Pour leurs compagnons, par exemple, ça peut paraître totalement dérisoire.
Françoise Loup, est-ce que vous avez justement le sentiment que la composante risque a changé ces 20 dernières années en haute montagne et que les alpinistes d'aujourd'hui sont plus intrépides ou consciemment prennent plus de risques que leurs aînés?
J'ai du mal à parler des alpinistes de façon générale. Moi, ce que je dirais, ce que j'ai un peu vu en parlant aux anciens guides, mais aussi en parlant à des guides actuels, c'est qu'il y a quand même une culture montagnarde qui existe toujours et qui est liée à l'affrontement avec la mort, mais à la connaissance en fait de l'existence de la mort, à la familiarité de la mort, beaucoup plus qu'au jeu avec le risque. Et là, bon, je ne sais pas si on peut parler de rite de passage, effectivement, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la transmission. Et moi, personnellement, je sais que vivre un peu dans cette culture montagnarde m'a aidé à affronter finalement ce que c'est que la mort, quelque chose qu'on connaît mal dans nos sociétés maintenant.
Le risque de mort déclenche parfois chez certains alpinistes des sensations étranges, une sorte d'état de grâce dans lequel ils vont accomplir des gestes techniques dont ils ne se seraient pas cru capables. L'alpiniste aventurier américain Rob Schultes, notamment, raconte cela dans un livre intitulé « Cime, extase et sport extrême ». Mais en deçà de ces états de conscience modifiés, qui sont relativement rares, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'un alpiniste au cours d'un effort physique intense et prolongé?
En principe, quand j'y vais, je suis bien équipée, je souffre pas. La dureté, je m'y attends. De toute façon, si je suis allée là-dedans, c'est que je m'attends à ce que ce soit relativement dur, et puis je suis préparée à ça.
C'est ce que vous cherchez, peut-être. Oui.
Et je le sais, et je le prends. Il faut être patient et puis pas trop se fatiguer non plus, parce que si on s'exténue, on n'arrive pas au sommet.
Mais il y a un plaisir au moment de l'effort. Par exemple, vous dites à certains moments que les muscles du ventre vous font mal tellement vous avez été obligé de vous arc-bouter, de prendre des positions difficiles, etc.
Donc, on peut avoir des courbatures, mal au bras, mal aux mains, etc. Mais ça, c'est passager. On a conscience qu'on a mal. Quand on est arrivé, par exemple, quand je mets mon bivouac, je m'installe et puis je commence à me préparer à dormir. Puis là, je constate que j'ai vraiment mal aux mains, que j'ai vraiment mal aux bras. Et par contre, dans l'action, je l'oublie complètement. Je suis dedans, je suis contente, le rocher est bon. Même s'il y a de l'eau, même s'il y a de la glace, je peste pas contre les éléments.
Mais il y a un plaisir en même temps, presque, dans cette souffrance.
Ouais, mais c'est pas... Moi, je n'ai jamais vraiment souffert. Quand j'étais à Trangos, j'ai eu des conditions de trois fois pires que ce que j'ai eu dans les Drus.
Donc en Himalaya.
En Himalaya, oui, c'était à 6000 mètres. On est resté à 6000 mètres pendant 15 jours. Plein de parois, bivouaqué avec du vide autour et vraiment une grosse tempête. J'étais bien. J'étais bien parce que d'abord on était bien équipés. Puis j'ai emmené un livre aussi. J'adore lire en montagne.
Comme ça, au-dessus du précipice.
Oui, mais c'est marrant parce que ces livres-là, on les lit vraiment. On est complètement attentif au langage et à tout ce qui se passe. On est complètement emporté. C'est encore un autre voyage dans le voyage. C'est fabuleux. Et ces livres-là, je les oublie pas, quoi. Et puis en plus, je pense qu'on a le temps. On a le temps de le déguster, le livre.
Il y a un certain nombre d'alpinistes qui ont accompli, ils s'en sont rendus compte après s'en être tirés, à ce moment-là, dans une sorte d'état de conscience modifiée, quelque chose que normalement, ils n'auraient pas dû être à même d'accomplir. Alors, est-ce que vous avez vécu des expériences comme ça ?
En montagne, ça arrive tout le temps. On prévoit, par exemple, de faire une ascension en un ou deux jours, puis ça dure 3-4 jours. Et là, il faut s'adapter, essayer de retrouver les forces. Il faut qu'on les... C'est marrant parce qu'on a des forces insoupçonnées pour survivre. Et on trouve la force et puis on arrive à s'en sortir. Mais l'être humain est comme ça. Je pense que Daboville, dans son périple, l'a bien, très, très bien montré, prouvé.
Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode personnel où vous êtes surprise vous-même ?
Oui, c'était en Himalaya. Pour approcher la paroi, il a fallu monter un couloir très 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 dangereux. Et on s'est retrouvé dans ce couloir un peu tard. Et il y avait des tas de chutes de pierres qui nous arrivaient dessus. Et je savais pas comment j'étais en cas de grand danger. Et en fait, il se trouve que je reste très très calme. Je réfléchis très très vite, mais c'est calme et je m'affole pas. Bon, alors ça a duré une heure ou deux en se disant, on était dans cet entonnoir et le moindre pierre, la moindre chute de glace, c'était pour nous. C'est la roulette russe, quoi. C'est-à-dire, si ça nous tombe dessus, on est là, puis c'est fini. Mais on a eu de la chance. Il y a eu une chute de glace, mais il se trouvait que moi, j'étais relativement protégée. Je me suis couchée contre le rocher. J'ai juste été touché le pôle, mais rien. Et puis, on a continué. Puis, on est sorti de là, c'était intact. Mais c'était un coup de chance, hein, vraiment. Et les cordes, juste avant, avaient été coupées. C'était l'horreur. Mais je reste calme. Et là, je me suis étonnée, parce qu'en principe, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça.
Et est-ce qu'à certains moments, par exemple, vous avez fait des escalades, adopté une technique supérieure à ce que vous pensiez être capable d'accomplir ?
Justement, ce jour-là, moi, je ne suis pas très habituée à faire de la glace. Et c'est un couloir de glace. Et il a fallu donc que je me déploie et que même si je ne connaissais pas bien et que je ne savais pas bien me servir de mes engins, il fallait que je me déplace rapidement et bien et sûr. Et là, il a fallu, je me suis dépassée pour pouvoir grimper. Et j'ai grimpé en tête parce qu'il fallait hors de question qu'on... c'était un coup l'un, un coup l'autre. Il fallait quand même faire des bons relais. On n'avait pas le temps de se changer au niveau des relais parce que je grimpais beaucoup avec un Américain. Et lui, il est spécialisé en glace et moi en rocher. Donc on s'était dit, toute la glace, c'est toi qui le fais et moi, le rocher, ce sera moi. Et là, dans ce couloir, il fallait absolument que je passe en tête pour aller le plus vite possible. Donc je passais en tête, même ne sachant pas bien grimper en glace. Et là, je me suis surprise parce que c'était un élément qui me faisait peur et dans lequel je ne suis pas à l'aise. Et là, j'ai bien grimpé, quoi.
Est-ce que vous avez parfois des sentiments de perfection, d'être le meilleur de vous-même à un instant donné dans une voie ?
Pas exactement. Il m'arrive d'avoir le sentiment d'être en symbiose avec le milieu dans lequel je suis, c'est-à-dire d'être parfaitement accordé. J'ai l'impression que là, il n'y a aucune fausse note, il faudrait simplement que le temps s'arrête. Mais la connotation de meilleur, c'est tellement, ou même au meilleur de moi-même. Moi, personnellement, effectivement, c'est une chose que je vais vivre, mais je ne la recherche pas en elle-même, un petit peu comme si c'était la jouissance de l'action physique pure. Ça ne m'intéresse pas énormément, bien que je le vive et que des fois je suis content parce que je sens qu'effectivement, j'accomplis le geste juste, je suis à ma place. Effectivement, mais je ne recherche pas ça pour ça. Je sais simplement qu'il faut absolument que j'ai un minimum d'entraînement. On le sait à chaque fois qu'on reprend une activité. Au début, c'est très rude. C'est très rude, non pas simplement parce qu'on se sent limité physiquement, mais parce qu'effectivement, on sent qu'on est toujours un peu à côté de la plaque, un peu à côté des prises, un peu il n'y a pas cette connexion parfaite. Mm-hmm. Mais moi, c'est pas ce que je cherche en montagne. En montagne, vraiment, et peut-être de plus en plus avec l'âge, je cherche à être là-haut. Là-haut, bon, bien sûr, pour être là-haut, il faut toujours avoir des rêves, d'avoir encore envie de gravir telle montagne, de se donner tel challenge, parce que c'est ce qui permet aussi de progresser dans la vie et d'avoir envie de repartir à chaque fois. Mais la jouissance physique, en quelque sorte, n'est pas du tout le but ultime recherché, de loin.
Pierre Denis, vous avez pratiqué l'alpinisme, vous continuez de le faire, mais à une certaine période de votre vie, on peut dire à un haut niveau, vous avez même ouvert des voies dans les massifs alentours. Qu'est-ce que vous ressentiez, je dirais, dans votre corps, dans des situations un peu extrêmes, lorsque vous réussissiez des choses techniquement très difficiles, dans l'effort physique?
Oui. Il n'y avait pas de différence entre ce type d'effort qui est réel, hein. Au maximum, je sais que pour une certaine course un peu spéciale, j'ai marché pratiquement sans arrêt avec mon second pendant 27 heures, par exemple, y compris de nuit, bien sûr. Hein. Eh bien, il y a un effort sérieux, et puis un effort qui n'est pas dans des, quelquefois, conditions faciles non plus. Hein. Eh bien,
qui peut même transcender sur le plan purement physique.
C'est ça. Mais j'ai toujours eu la même impression, je dirais presque sensation, c'est-à-dire en grimpant une face nord difficile dans les nuages, longue, et en travaillant un problème de maths, en essayant de prier intelligemment le Seigneur, hein, en construisant quelque chose, en faisant des plans sur la table à dessin, etc., etc. Dans le domaine intellectuel, par exemple, c'est le cas actuellement, en essayant de comparer les religions entre l'Orient et l'Occident, j'ai toujours eu la même impression d'effort, mais du même type. Il n'y a aucune différence pour moi, disons, entre l'effort physique sérieux, j'entends, l'effort intellectuel, l'effort spirituel. Pour moi, c'est la même chose. Et le tout étant par la grâce de Dieu.
Mais il n'y a pas de spécificité. L'alpinisme est une très belle activité humaine.
Parmi d'autres. Il y en a d'autres. Herzog disait un jour, après son premier Annapurna, hein, il y a d'autres Annapurna dans la vie des hommes. Eh bien, il y a effectivement dans la vie spirituelle, la vie intellectuelle, mais surtout dans la vie spirituelle, des moments plus durs que dans certaines faces nord.
Outre le plaisir du risque dont on a parlé tout à l'heure, donc le plaisir de charmer la mort, il y a donc ce plaisir dont ils témoignent tous, c'est le plaisir de l'endurance, le plaisir de pousser son corps à chaque fois un cran plus loin. Alors Françoise Loux, vous qui vous intéressez à l'anthropologie du corps, parlons aussi de ce qui va plus loin qu'évoquait tout à l'heure un petit peu Catherine Destivelle, c'est-à-dire qui est à la jointure au fond de l'extrême et de l'endurance, qui est qu'à un moment on se trouve souvent par le jeu du hasard dans un état où on est contraint pour s'en sortir d'aller au-delà de ce qu'on croyait être ses possibilités. C'est décrit par Catherine Destivelle. Rob Schulteis, dans ce livre dont on parlait tout à l'heure, Sim, raconte dans ce qui lui est arrivé dans les Rocheuses du Colorado. Il est tombé une chute de plusieurs mètres. Il était très amoché et là, il a descendu une paroi. Il n'a jamais compris comment il y est arrivé. Il y est retourné pour comprendre comment il avait descendu cette paroi. Il n'a encore une fois pas compris en analysant, je n'aurais jamais dû le faire. Alors, est-ce que vous avez dans votre travail de recherche sur le corps, vous aussi, pu inventorier des cas comme ça ?
Oui, c'est des témoignages qu'on entend souvent dire, enfin, des guides de montagne qui ont un accident grave et qui trouvent en eux la force quand même de redescendre avec les clients pour sauver les clients et puis se sauver eux-mêmes. Mais on entend ça aussi pour les coureurs de fond, même bon, dans les clubs de gymnastique, on entend dire ça aussi. Bon, il y a eu un moment où je me suis dépassée, enfin, c'est un peu différent, où je me suis dépassée et où j'ai éprouvé un plaisir physique intense parce que je me suis dépassée.
Procède de quoi, d'après vous? Parce que Rob Schulteis donne des explications, il parle d'hormones, il parle...
Mais en fait, il a suivi deux voies de recherche, il a essayé de comprendre. Première piste, une espèce de biochimie du stress qui serait finalement le moment génial, c'est lorsqu'on atteint un cocktail idéal d'endorphine et d'adrénaline, pour simplifier à l'extrême. Et puis, deuxième piste de recherche, plus spirituelle, les trans chamaniques. Il compare un peu l'état qu'il a ressenti le jour de sa chute à l'état de chaman en transe. Donc, il a exploré ces deux pistes. Ça vous paraît des pistes intéressantes, Françoise Loux?
Oui, bon, moi, je me sens, en tant qu'anthropologue, je me sens plus proche peut-être des trans chamaniques ou ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est cette impression de symbiose dont parle aussi Gabarou, c'est-à-dire un moment où on sent que même si on affronte une nature extrêmement difficile, des conditions extrêmement difficiles, on arrive quand même à faire corps avec cette nature et à être en symbiose avec la nature et le corps, la nature, tout ça va de pair. Et je crois que c'est ça aussi qui procure ce plaisir.
David Le Breton.
On pourrait parler aussi d'efficacité symbolique. Puisque là, on a affaire à des hommes qui réussissent à tenir la mort en joue, je dirais, pendant quelques heures, et qui éprouvent un sentiment d'extraordinaire plénitude qui est provoqué par ce contact qui ne peut que les métamorphoser complètement. Il y a la vie qui est en jeu, donc à ce moment-là, on atteint une sorte d'extase.
Est-ce que cette valeur de l'épreuve, justement, n'est pas sous-estimée dans notre société actuelle?
Moi, je dirais qu'elle est plutôt surestimée. Là.
Surestimée?
Oui, parce que le thème de l'extrême est devenu l'une des mythologies de la modernité.
Mais on peut vivre l'épreuve en dehors du registre de l'extrême, et c'est peut-être à ce niveau-là que c'est sous-estimé, dans le quotidien. Parce que, puisque se manifeste ce besoin de manière extrême, on peut penser que c'est un besoin qui n'est pas satisfait par l'évolution normale d'un individu dans le cadre de notre société contemporaine.
Oui, alors d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Là, c'est vrai que l'épreuve, elle a la vertu de nous donner enfin les limites qui nous manquent dans la vie quotidienne. Ces limites de sens et de valeur que la modernité rend toujours terriblement provisoires. L'une des manières anthropologiques, en quelque sorte, de fabriquer du sens d'une manière durable, c'est bien de s'infliger une épreuve, de s'en sortir. On a le sentiment, à ce moment-là, d'avoir été plus fort que la souffrance, plus fort que la mort, et on a fabriqué ce surcroît de sens qui rend la vie plus forte.
Catherine d'Estivelle disait tout à l'heure, d'ailleurs, on a fait peau neuve, et ils ont presque tous dit ça à leur manière. Régénération, redémarrage vers le stade suivant, hein?
Alors, la haute montagne, parce qu'elle oblige justement à un dépassement de soi et à une certaine introspection, intéresse de plus en plus des éducateurs et des thérapeutes. L'alpinisme est aujourd'hui utilisé comme un remède à certains déséquilibres d'ordre psychologique ou social. Des détenus sur le Mont Blanc cet été, on s'en souvient, des délinquants sur d'autres sommets des Alpes depuis plusieurs années. Je vous propose d'entendre Yves Gaillard, guide de haute montagne et éducateur. Ce jour-là, il emmenait un groupe de jeunes loubards de la région lyonnaise au sommet de la Franchesetti en Vanoise. Des jeunes de 16 à 25 ans engagés dans un stage de réinsertion de 9 mois au programme travail scolaire, apprentissage d'un métier, escalade et alpinisme.
Je crois d'abord que c'est une rupture très importante avec leurs habitudes, leur milieu, et puis c'est une découverte d'eux-mêmes par le biais de l'activité escalade des marches et montagnes, et aussi la découverte peut-être d'une population différente, de rapports humains aussi différents.
Parce que à la limite, est-ce que tu penses qu'au bord de la mer, en un stage axé sur la planche à voile, ça pourrait leur apporter à peu près les mêmes choses?
Non, certainement pas, parce que à la limite, le bord de la mer, ils connaissent tous, quoi. Ils connaissent parce que pour eux, c'est le soleil, le farniente, les boîtes de nuit le soir et les jolies minettes. Bon, en montagne, il y a des jolies minettes, hein, il n'y a pas de problème aussi. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'ils découvrent qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire alors qu'ils l'imaginaient jamais. Ils n'auraient jamais pu l'imaginer auparavant.
La montagne, ils en font, ils en ont fait. Est-ce que tu sens déjà, pour certains jeunes, je veux dire, un effet sur le reste du stage et le reste de leur vie, c'est-à-dire l'orientation, l'apprentissage d'un métier? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont débloquées pour certains?
je crois qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer. Il y a surtout des jeunes qui se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses avec, entre guillemets, un peu exceptionnelles. Alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient ce qu'on appelle avoir une image dévalorisée d'eux-mêmes. Ils se sentaient incapables de rien faire de bien. Et c'est vrai que monter à 3006 sur un glacier, c'est déjà une chose assez exceptionnelle. Peu de gens le font. Et je crois que ça fait bouger le reste.
Dans le groupe, visiblement, il y a une majorité de jeunes pour qui c'est positif. C'est-à-dire que l'effort, même s'ils en bavent, ils apprécient. En revanche, il y en a quelques-uns qui sont, au jour d'aujourd'hui, un peu en situation d'échec. La montagne, c'est fini. On arrête, quoi.
Oui, enfin, c'est au jour d'aujourd'hui, effectivement. Parce qu'au printemps, on a déjà eu une première expérience. Et je crois que quand c'est tout frais, on peut effectivement entendre des messages de renoncement. Mais tout ça, ça travaille. Et puis ça travaille en même temps qu'ils font les chantiers, que leur projet personnel commence à se dessiner. Et je crois que ça, on pourra peut-être en parler plus précisément dans quelques mois.
Alors David Le Breton, la montagne comme réponse à certaines formes de déséquilibre psychologique ou social, ça vous paraît un miroir aux alouettes ou ça peut fonctionner?
Ça me paraît très très pertinent. Je vois au moins cinq raisons de cette pertinence. Pour les dire très rapidement, il y a la question du déplacement. Cet éducateur le dit très bien. Rupture avec leurs habitudes. Créer de l'exceptionnel dans une vie relativement terne. Créer de l'exceptionnel, au regard du thème de l'émission, ça veut dire pour nous créer du sacré quelque part. Deuxième raison, c'est réguler le goût du risque. On sait que ce sont des jeunes qui sont toujours très très limites, qui jouent en permanence avec leur vie, sur leur mobylette, dans leur vie quotidienne. Et là, ils sont pour la première fois confrontés à la nécessité de se protéger davantage, d'être avec d'autres, de suivre des gens qu'ils estiment et qui vont les guider. Il y a la raison de se donner une limite physique, là où les limites de sens, surtout pour ces jeunes en difficulté, font énormément défaut. Alors là, on s'affronte d'une manière concrète, tangible, au rocher, à la paroi. Il y a aussi la sociabilité de type commando, je dirais, c'est-à-dire de partir avec une bande de copains, avec un éducateur qu'ils estiment, et ensemble s'affronter à un quotidien difficile.
Même si parfois ça fait des étincelles, dans cette course, il y en a deux qui se sont battus au sommet, mais ils se sont réconciliés très vite.
Oui. Et puis la cinquième raison d'être, c'est la régulation du goût du vertige. Là, il faudrait longuement analyser le vertige, mais pour les jeunes, c'est pas une notion anodine, puisque ça renvoie à leur manque de soutien, au fait qu'ils ont le sol qui se dérobe sous leurs pieds. Et là, on est un peu dans une homéopathie du vertige. On combat le vertige de la vie par le vertige qu'on contrôle de la montagne.
Si la haute montagne est un lieu propice à l'expression d'une certaine spiritualité pour les alpinistes, elle a toujours été considérée par les autres hommes, ceux d'en bas, comme un lieu sacré ou maudit, comme le royaume des dieux ou le repère des génies. Dans sa vie d'alpiniste, le père Jean-Denis s'est évidemment intéressé au caractère sacré des montagnes qu'il a fréquentées. D'abord, la Garret El Jenoun, dans le sud du Sahara. Cette montagne des génies que les targhis s'interdisaient d'approcher et que lui a gravi à la fin des années 30, juste après Frison Roche.
Au pied de la Garret, je me souviens, à Noël, une certaine messe de minuit, l'éperon nord de la Garret était juste devant nous, la lune, le ciel plein d'étoiles, avec ses astres brillants tels qu'on les voit là-bas, au Sahara. Tous mes camarades étaient là autour de moi, et croyants ou pas croyants, protestants et catholiques, nous avons célébré Noël dans le vent léger du désert qui nous rappelait, comment dire, tellement de choses, tellement de racines sur le plan humain et sur le plan religieux. Donc c'était le hogar. Mais j'ai un souvenir aussi de ce targhi militaire qui était avec nous. Eh bien, une des membres de notre expédition a voulu absolument que ce targhi, qui s'appelait Wenni, monte jusqu'au sommet de la Garrette. Or, la Garrette, c'est une montagne sacrée. La Garrette Ed Genoun, des génies par conséquent. Aucun targhi n'était jamais monté là-haut, c'est bien évident. Et rentré à Tamanrasset, il a été mis en quarantaine. Les familles, les autres militaires disaient qu'il était contaminé par cette montagne et que, par conséquent, il n'aurait jamais dû y aller, que c'était une montagne sacrée.
Père Denis, vous avez fait, je crois, 17 voyages et séjours en Himalaya. Vous avez étudié assez profondément les deux grandes religions et leurs dérivés, si je puis dire, le bouddhisme et l'hindouisme. Est-ce que vraiment dans cette région-là, il y a une interpénétration du profane et du sacré ? Est-ce qu'il y a vraiment un vécu de la vie très, très spirituelle ?
Eh bien, dans la majeure partie de l'Himalaya, il s'agit du bouddhisme sous forme du bouddhisme tibétain. On peut discuter en Occident à perte de vue, savoir si le bouddhisme est une religion ou non, ou une sagesse, ou une philosophie, ou etc. Bien, mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui sont là-bas, dans le Népal du Nord et au Tibet, sont des gens très religieux et qui vivent le bouddhisme certainement comme une religion. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Et par exemple, eh bien, j'étais une certaine année en expédition pour la première de l'arête nord de la Madablam. Eh bien, nous avions comme serdar Lakpa Norbu, un sherpa que je connais bien, de Pangbochi, un homme remarquable, un garçon en or, et sa femme Nimi, qui est également sherpani de Djumbezi. Nimi. En passant au monastère de l'Everest, pendant la marche d'approche, c'est-à-dire à Tiangboche, eh bien, nous avons été rendre visite au monastère et aux moines, ce qui est parfaitement normal. Et dans la salle de culte, j'ai demandé à Lakpa Norbu la permission de prendre une photo au flash. Une photo de quoi et de qui ? Eh bien, de Nimi en prière. Elle priait ses dieux pour que l'expédition réussisse, qu'il n'y ait ni mort ni blessé, que son mari revienne, que... Voilà. Et j'ai demandé un jour à mes amis les guides de Saint-Gervais-Valmontjoie, combien parmi vous passent à l'église avant de partir en course, surtout quand il s'agit d'une course sérieuse. Enfin, la proportion n'est pas absolument énorme. Voilà, enfin, c'est un souvenir. Par exemple, également, cette fois-là, en arrivant au camp de base, nous étions à 5100, au nord de la Madablam. Camp de base, première chose, monter AUTEL, l'hôtel du camp, avec des pierres, avec le petit foyer et les trois pierres dressées, c'est-à-dire les trois protecteurs du Tibet. Et il se trouve ensuite que lorsque j'étais au camp de base et non pas dans les camps d'altitude, eh bien, tout au matin, avant les autres, Lakpa venait me réveiller pour dire la prière avec lui. Il savait que je n'étais pas bouddhiste. Il savait que j'étais chrétien sans savoir ce que ça voulait dire. Mais il savait que j'étais religieux. Ça l'intéressait.
Pourquoi ces terres, qui sont le toit du monde, sont aussi le royaume des dieux, à votre avis ? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux choses ?
Non, pas fatale. De toute façon, il est sûr que tout ce qui a été désert, tout ce qui a été océan, et tout ce qui a été haute montagne, donc des régions un peu particulières de cette planète, hein, ont toujours favorisé une certaine recherche du sens, et par conséquent, disons une certaine, au sens très large, culture religieuse, hein, y a pas de doute. Mais de toute façon, attention, non, les grandes religions ne sont pas nées facialement et loin de là, dans ces pays extraordinaires, océans, déserts ou montagnes. Hein. Les grandes religions sont nées dans un tout petit coin, qui est la Palestine, ça va pas très loin, sur le plan humain en général, au point de vue quantitatif, et puis surtout, ben surtout chez les Indo-Européens de la Perse, enfin de l'Iran et de l'Inde du Nord. Hein.
Alors si les montagnes ne sont pas le berceau des grandes religions, elles sont quand même très présentes dans la mythologie, elles tiennent une grande place dans la symbolique, mystique et religieuse. À votre avis, Françoise Loup, pourquoi Dieu et le diable ont-ils pris position sur tellement de montagnes à travers le monde ?
Et à travers le monde et aussi d'ailleurs dans notre culture montagnarde. Alors pourquoi ça serait, c'est assez difficile de le dire. Je pense que parce que c'est les hautes montagnes sont les lieux où l'homme ne peut plus vivre. Donc c'est le royaume de la surnature, du surnaturel. Moi, ce qui me frappe dans notre culture montagnarde, c'est toutes les légendes et réalités qui se mêlent pour dire que la haute montagne était autrefois un domaine interdit, un domaine où on ne pouvait pas être la nuit sur les glaciers parce qu'on disait que les âmes des morts étaient sur les glaciers. Et la légende de Jacques Balma, enfin l'histoire de Jacques Balma est tout à fait frappante parce que Jacques Balma est le premier qui a passé la nuit sur un glacier, donc ça a permis d'aller au sommet du Mont Blanc. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jacques Balma? Mais il lui est arrivé en redescendant que sa fille était morte. Donc il a été puni de la mort de sa fille, d'une part. Et d'autre part, quand il est mort lui-même, pendant, on n'a pas retrouvé son corps. Donc son corps a disparu là où il aurait dû disparaître quand il avait passé la nuit sur le glacier. Donc violer ce monde des dieux, ce monde des démons aussi, c'est risquer beaucoup. Mais je pense que David a beaucoup de choses à dire.
Là-bas. David Le Breton, justement, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, l'alpiniste moderne est un profanateur des lieux sacrés que sont les hautes montagnes, sinon dans les Alpes, du moins dans d'autres régions du monde, comme en Himalaya, par exemple?
Oui, pour prolonger quand même le débat avec Françoise, je voudrais dire que la hauteur n'est pas seulement une valeur géographique, c'est aussi une valeur morale. Ça me paraît une donnée importante aussi. Alors, la question de la profanation, c'est un jugement de valeur là, qu'il est pour nous, anthropologues, bien difficile de dénoncer, parce qu'on n'a pas tellement à juger, on a plutôt à comprendre pourquoi les montagnes deviennent effectivement un terrain de jeu des Occidentaux aujourd'hui. Bon, elles le deviennent comme la mer, comme les déserts, comme les forêts d'ailleurs, des quatre coins de l'univers aujourd'hui, parce que ce sont des lieux élémentaires où il est plus facile qu'ailleurs de s'affronter à la mort, de jouer avec la mort.
Montagne sacrée, on constate aussi que chaque alpiniste a sa propre montagne, sinon sacrée, du moins magique, un sommet auquel il est presque religieusement attaché. Je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage de Patrick Gabarou.
J'avais 19 ans lorsque j'ai eu la chance de gravir mon premier 4000, qui était dans les Alpes suisses, qui s'appelait la Dent Blanche, qui est vraiment une des plus belles montagnes que je connaisse. Et puis évidemment, qui me parle au cœur, à tous les niveaux. Bon. Et c'est resté toujours une de mes montagnes, un beau jardin. Bon. Et 20 ans plus tard, avec un compagnon, j'ai gravi cette même montagne, mais non plus par la voie normale, puisque c'était mon premier 4000 mètres et tout, par une voie directe, la directissime de la face nord-ouest. Et cette voie, après donc 20 ans d'alpinisme, je l'ai baptisée Deo Gracias. Il est très rare que j'utilise des termes comme ça, parce que des termes comme ça, ça veut dire que on croit à quelque chose de très profond et de décisif dans sa vie. Et donc, je ne cherche pas à imposer ça, à la limite, comme une vision du monde aux autres. Mais de temps en temps, il faut aussi dire ce qu'on vit dans certains moments privilégiés.
Cette ascension, Patrick Gabarou l'a racontée en un texte superbe publié dans la revue Montagne. Pour l'échappée belle, Patrick Gabarou effeuille le souvenir de cette escalade divine.
En moi monte un irrépressible besoin d'action de grâce. Merci pour ce sommet qui est plus pour moi peut-être qu'aucun autre. Merci pour les merveilles à moi offertes en ce matin et en tant d'autres. Mais merci plus encore pour le don de l'émerveillement. Merci pour la trace que j'ai voulu et qu'il m'a fallu suivre pas à pas au travers des montagnes russes de la vie et de la montagne mêlée. Merci pour vous qui me venez maintenant à la mémoire du cœur, tout baigné encore des éclats d'azur et de tempêtes des hauts lieux. Vous tous, compagnons et amis avec qui j'ai remonté ces pentes innombrables qui s'éveillent maintenant aux quatre coins de nos Alpes bien-aimées. Vous que je vois, chacun sur un des sommets de l'horizon, illuminé pour moi seul du sourire qui n'appartient qu'à vous. Et plus encore vous, Jean-Claude, Pierre-Alain, Jean-Marc, avec qui j'ai partagé tant d'instants intenses et de petits riens, et qui êtes partis avant moi vers d'autres arêtes, quelque part au-dessus des grands vides du monde. Merci enfin pour ces 20 années où il m'a été donné de suivre et tisser à la fois, entre étoiles et tempêtes, le chemin lumineux de l'altitude. Deo gracias.
Et c'est magnifique et il est difficile de parler après ce très beau poème de Gabarou. Simplement, je crois qu'on peut dire que tous les alpinistes ont ainsi leur montagne magique. Et certains vieux guides que j'interviewais me parlaient d'une montagne qui était parfois une toute petite montagne, les larmes dans les yeux, et puis ils s'arrêtaient et disaient « Ah, ce que c'était beau !» Ah, puis cette montagne, j'ai pas réussi à y aller, mais c'est ma montagne, c'est la montagne qui est dans mon cœur.
Alors le rêve d'absolu des alpinistes se heurte aussi parfois, comme tous les rêves des hommes, aux réalités socio-économiques. Quand l'alpinisme passion devient un métier, alors la spiritualité peut s'abîmer dans le fric, dans la médiatisation et dans l'esprit de compétition. Patrick Gabarou.
On commence à gravir des montagnes. Et puis, on la gravit, bon, il y a un certain nombre d'autres personnes, une certaine compétition, plus ou moins officielle ou officieuse. Et donc, des gens qui commencent à devenir célèbres. Et puis, d'un coup, un gars qui meurt. Il meurt. Et alors, quelle était la réalité, l'importance, la valeur profonde de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a fait, quand je dis pour lui-même, j'aime pas trop ce terme un peu trop égocentrique, mais est-ce qu'il l'a fait de belle manière comme un chant, dans un chant qui peut-être était beau pour lui, pour les autres, ou est-ce qu'il l'a fait simplement pour les feux de la rampe? Auquel cas il est mort. Maintenant, quel est le bilan? Et au fil des années qui avancent, on se dit, bon, maintenant, je dois être toujours plus en accord avec moi-même, avec la beauté de ces lieux, je n'ai pas à les trahir, simplement parce que je me trahirais moi-même et je trahirais ce qui est profondément en moi et peut-être mon chant de joie en montagne, cette relation amicale, claire avec les autres, qui fait que effectivement j'ai une carrière de conseiller technique que je n'ai d'ailleurs pas voulu, qui est venue d'elle-même et que maintenant j'assume le mieux possible, le plus honnêtement possible, au niveau des prestations, des salons et tout, mais avec une activité de montagne dont je ne veux jamais qu'elle trahisse ce qui a toujours été mon rêve d'alpiniste. C'est-à-dire que je pense que si je le pouvais, maintenant je serais peut-être dans d'autres domaines de la vie, tout à fait, peut-être plus altruiste même ou n'importe, j'irai en montagne de la même manière que j'y vais actuellement, c'est-à-dire vraiment de manière gratuite, en disant même si ça ne me rapporte rien, j'ai envie de le faire parce que je sais pas, cette voie-là, elle n'a pas été faite et j'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire parce que c'est beau, et c'est exactement comme, je sais pas, une chose que j'ai toujours rêvé, c'est d'être dans un chœur et de chanter l'Alléluia de Handel. Je l'ai pas fait, bon, et j'aurais envie de, même maintenant, si je pouvais rentrer dans un chœur, voilà, et c'est tout. Et des milliers, des millions, presque, je dirais, de personnes l'ont chanté ou vont le chanter après, mais moi, à ce moment précis, je chanterai et c'est beau et c'est en accord avec les autres et c'est simplement, je serai à ma place à ce moment-là. Et
est-ce que c'est cette passion existentielle que vous allez chercher là dans quelques jours au Chili, en Patagonie?
C'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que dans sa vie, on n'est jamais totalement clair. On y va parce que, en même temps, c'est quelque chose de beau. Je suis avec des compagnons avec lesquels je pense que je vais bien m'entendre. On va découvrir quelque chose. Donc on se dit, ce que je fais est important parce que quelque part, je chante la beauté du monde en le faisant. Et que dans le monde, toutes les énergies positives, de toute façon, sont véritablement profondément positives, même si concrètement, elles ne sont pas tout de suite la main tendue à un autre. Ceci dit, comme dans toute vie, bien sûr, je suis là en me disant, je fais ça et c'est important, et c'est aussi dans le cadre de ma carrière d'alpiniste, et bon. Et je suis toujours en balance, j'ai 40 ans, par rapport à quelque chose de peut-être plus altruiste que, mettons, je vais vivre dans le cadre de Mountain Wilderness.
Voilà, je vous rappelle que Mountain Wilderness, c'est une association mondiale créée en 87, dont Patrick Gabarou est aujourd'hui l'un des dirigeants. Mountain Wilderness s'est fixé pour but de dénoncer le processus de civilisation exagérée de la montagne. Alors, David Le Breton, spiritualité du tiroir caisse et de la notoriété, est-ce que le rêve de l'alpinisme désintéressé est très souvent dévoyé aujourd'hui, à votre avis?
Bah, la montagne connaît le même phénomène que la mer ou la jungle ou le désert, c'est-à-dire le passage de l'aventure qui se passait encore dans les années 50-60 à la nouvelle aventure qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux et qui se caractérise par un certain nombre de dimensions. La première d'entre elles, c'est évidemment la médiatisation, c'est-à-dire que le monde est transformé en scène où le nouvel aventurier joue le spectacle de sa confrontation tout à fait organisée avec la mort. C'est aussi la perte, évidemment, de toute humilité du côté du nouvel aventurier, parce qu'il va pas faire quelque chose dans le silence, dans la discrétion. Il va revendiquer haut et fort l'exploit qu'il a réalisé. Bon. Et également l'aspect individualiste, c'est-à-dire qu'il se met en avant d'une manière personnelle. Et puis que l'exploit de l'un peut être la dérision de l'autre. Il y a l'aspect simulation, puisque tous les sommets ont été conquis, excusez-moi.
Faites.
Là, j'essaie de clichés là qui. Puisque tous les sommets ont été gravis, plutôt, voilà le mot que je cherchais, il faut maintenant faire de la surenchère, c'est-à-dire grimper en solo,
le plus vite possible, en enchaînant,
prendre un hélicoptère pour être transporté d'un endroit à un autre. Bon, on est dans la simulation pure et simple, et on est là aux antipodes absolument de l'alpinisme traditionnel. Il y a le jeu délibéré avec la mort aussi, il faut faire dangereux, il faut montrer que quelque part, on est costaud, enfin qu'on est plus fort que la mort. Et puis il y a l'idéologie de la jeunesse aussi. Il faut montrer qu'on est jeune encore, qu'on a toujours une vitalité. Là, on rejoint Simmel d'ailleurs, qui il y a bien longtemps, au début du siècle, avait constaté que l'aventure mettait toujours en avant la jeunesse.
Mais peut-être que tout n'est pas aussi dégradé dans l'alpinisme de haut niveau. Je pense par exemple à une trajectoire comme celle de Reinhold Messner, qui évite soigneusement d'avoir des caméras et qui nous apprend un beau jour qu'il a fait tous les 8000 de l'Himalaya et personne ne le savait, à part ses proches. Il rapporte certes des publications, des images, mais et Catherine d'Estivel d'ailleurs s'en est expliquée, elle sépare très soigneusement ses aventures en montagne, ses aventures les plus personnelles, de l'univers médiatique. Et de temps en temps, il faut bien vivre, elle organise une séance de photos, elle fait venir la télévision. Alors c'est peut-être de ce côté-là que l'alpinisme de haut niveau peut se maintenir, dans quand même le maintien d'une sorte d'expérience, de jardin secret, je dirais. David Le Breton.
Oui, ce jardin secret s'exprime quand même par la publication de livres, de manifestations médiatiques.
Pas toujours. Les uns et les autres reconnaissent tous maintenant faire un certain nombre de choses pour le simple plaisir, sans aucun débouché commercial. Donc c'est plutôt rassurant.
Françoise Loup, vous êtes d'accord ?
Oui, je trouve aussi qu'on parle de l'alpinisme de haut niveau, mais il y a aussi l'alpinisme tout court.
Le simple plaisir de le faire à un niveau qui est le nôtre, d'aller marcher en montagne, voire en haute montagne, et de n'en parler à personne, mais de le vivre avec bonheur.
Et puis il y a un autre professionnalisme aussi, qui est le professionnalisme des guides de montagne, et qui peuvent à la fois gagner leur vie en étant guide et avoir la passion de la montagne.
Merci à vous deux.
T'as dévissé l'arrière ? Non, moi c'est bon. Mais ceux-là, ils sont longs à régler. Il y en a qui sont beaucoup plus faciles. Normalement, ça, ces crampons-là, quelqu'un les achète, il les règle pour ses chaussures, puis c'est bon pour eux. C'est fini une bonne fois pour toutes. Alors qu'il y a des modèles qui sont spéciaux pour la location, donc tu peux les régler très très facilement. Là, c'est un peu plus long.
Ma démarche a toujours été une démarche vraiment, je dirais, de montagnard simple. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis enfin allé en montagne, je dirais presque après des études qui ont été longues, je suivais deux cursus en philosophie et tout, et on parlait beaucoup et on essayait de convaincre les gens. Et moi j'avais, peut-être naïvement, envie quelque part de découvrir la vérité ou de l'approcher ou bon. Et puis, on était donc toujours dans un domaine intellectuel, d'intellectualisme. Et puis, là, on se retrouve, et c'est pas uniquement la montagne, ça peut être peut-être même plus profondément la campagne, je veux dire, le contact à la terre et tout, dans l'intelligence profonde du monde. Et là, c'est là que se trouve l'intelligence, c'est-à-dire sans mots, sans paroles, sans, où on ressent quelque part le pourquoi et l'essence des choses. Et là, à ce niveau-là, justement, je pense qu'il vaut mieux laisser son intellect de côté et dire simplement se promener comme un enfant, peut-être adulte, mais aussi avec cette capacité de regard neuf de l'enfant dans le monde. Un matin, simplement au sommet de l'aiguille du midi, le monde s'offre à vous et on se dit aujourd'hui, c'est encore des instants, je dirais, des instants d'éternité, je dirais presque. C'est-à-dire que là, je suis pendant cet instant présent dans la beauté du monde. Pouf! Je ne sais pas ce qui va m'arriver après, ce que j'ai laissé dans la vallée, mais là, je suis dans la lumière. On a tous, quelque part en soi, l'irrépressible besoin d'une beauté définitive, et puis qui soit la réponse à notre question intime et constante de toute notre vie, puisque tous on est fait pour la mort. Cette beauté-là, est-ce qu'elle existe vraiment ? Quand je dis beauté, c'est très global. Il peut y avoir aussi la connotation de bonté dedans. Hein. C'est quelque chose qui vous emplit complètement, de manière totalement positive et où vous êtes vraiment, pas simplement bien, mais totalement vous-même.
La montagne mystique par Marc Hughes avec en direct David Le Breton et Françoise Loux et en reportage Jean-Denis, Patrick Gabarou et Catherine Destivel. On va vous donner maintenant, Marc, une petite biblio, Marc et moi, une petite biblio. Donc, bien entendu, le livre de David Le Breton, Passion du risque chez Métellier, donc une réflexion globale sur le phénomène de l'extrême. Françoise Loux, Guide de montagne, Mémoire et passion, aux éditions Didier Richard. Et puis un livre que vous avez certainement tous lu, puisqu'il est très proche de notre thème, par Sam Ivel, Hommes, Cimes et Dieux, aux éditions Artaud. Un mot également donc du dernier livre de Catherine Destivel, qui est un beau livre, Rock au pluriel nature, avec des photos de Gérard Kosicki chez De Noël. Et puis un livre que vous aimez beaucoup, Marc.
Oui, je voudrais absolument parler de La mort suspendue de Joe Simpson, qui est paru chez Glénat. C'est un incroyable récit de montagne, vraiment dans le sens classique du terme. Personnellement, je l'ai lu en deux soirées et Françoise Loux m'a dit qu'elle l'avait lu en une seule nuit. C'est absolument palpitant. Et puis, je rappelle simplement le titre du livre de Rob Schultes, Sim, Extase et Sport de l'extrême, chez Albin Michel.
Et puis, on signale également la parution, je ne l'ai pas encore eu en main, ce livre, des chroniques de montagne de Dino Buzzati, texte de montagne. Ce sont des chroniques qui ont été publiées entre 1932 et 1971 dans le Corriere della Sera, aux éditions de Noël, ce livre.
C'était La montagne mystique dans L'échappée belle, une émission de Marie-Hélène Freisset réalisée par Janine Souchier. Première diffusion sur France Culture le 6 décembre 1991. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne sur le site de France Culture, franceculture.fr à la page des nuits et sur l'application Radio France.